Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Didier, on commémore cette année le 75e anniversaire oui. du déclenchement de la guerre de Corée.
Oui.
Aussi, je vais tenter de résumer ce terrible conflit fratricide dans lequel des Français se sont engagés. Ça, tout le monde ne le sait pas.
Ouais, lourde tâche.
Voilà, oui, c'est vrai.
D'accord.
Et c'est une guerre, un symbole de la guerre froide
ouais.
dont le traité de paix n'a jamais été signé.
Ah oui.
Voilà. Et pour un peu de légèreté, en deuxième partie d'émission, Didier, tu vas nous parler de deux plats coréens emblématiques.
Que j'aime beaucoup.
Très bons, oui. Et faciles à préparer, on pourrait
oui.
même dire très faciles à préparer.
C'est simple quand même, oui.
Pas cher.
Non.
Le kimbap et le bibimbap.
Tout à fait. Donc du coup, avant de se restaurer de tout ça, on va repartir vers la Corée, donc, mais pour la période qui a commencé vers 1950. Et quel était le contexte de l'époque et les origines du conflit déjà ? Commençons par la base, la genèse de tout ça.
Oui, alors c'est comme je vous le disais, le 25 juin 1950 que la guerre de Corée a commencé, donc 75 ans.
Oui.
Et cet anniversaire a été commémoré cette année à Séoul et dans les pays participants à l'ONU, dont la France,
oui.
pour rendre hommage au sacrifice des soldats et aux nombreux civils victimes du conflit.
Mmh.
Alors, la guerre de Corée s'est déroulée entre 1950 et 1953, 3 ans donc, et a été le premier grand conflit armé de la guerre froide. Et elle a opposé donc la Corée du Nord, communiste, mmh. soutenue
oui.
par l'Union soviétique et la Chine,
j'imagine,
à la Corée du Sud, aidée par les États-Unis et les forces de l'ONU, mmh. qui venaient tout juste de naître, hein, les forces de l'ONU.
Oui.
Hein. C'était après la guerre.
Mmh.
Alors, c'est la division du pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui en est à l'origine de cette guerre.
Mmh.
Et elle illustre l'affrontement idéologique entre deux blocs, le capitalisme occidental et le communisme soviétique.
Oui, bien sûr.
Et chinois, bien sûr.
Oui. Alors du coup, moi j'ai besoin d'un petit rappel historique. Dans quelles circonstances, en fait, la Corée a été coupée en deux, en fait ?
Alors, je vais rappeler que la Corée a été une colonie du Japon de 1910
oui.
à 1945, que le Japon y avait imposé sa langue, sa culture et avait exploité les ressources du pays à son seul profit.
Mm-hmm.
Alors, la population coréenne avait subi la répression, le travail forcé et la déculturation. Ça, c'est très important d'insister
oui,
là-dessus.
On en avait déjà un peu parlé, oui.
Exactement. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Coréens ont été enrôlés de force dans l'armée japonaise, de nombreuses femmes réduites en esclavage sexuel,
mmh.
etc. Alors en résumé, je dirais que le peuple coréen a beaucoup souffert et a développé un nationalisme important à l'époque.
D'accord, mais à la capitulation du Japon en août 45, la Corée était pourtant redevenue indépendante et libre, non ?
Oui, tout à fait, Didier.
Ouais.
Mais pour des raisons stratégiques, les États-Unis et l'Union soviétique s'étaient partagé le pays le long du 38e parallèle,
ouais.
avec au nord les soviétiques communistes et au sud les Américains. Et les Américains qui vont mettre en place un régime anticommuniste. Alors cette division était censé être temporaire, donc tout se passait encore à peu près bien.
Ouais.
Au moment de la division du
D'accord,
pays,
ouais,
c'était temporaire, normalement.
Bien sûr.
Mais en 1947, les désaccords... 1947,
oui,
hein, les désaccords entre Moscou et Washington ont rendu impossible des élections nationales pour réunifier le pays. Donc en fait, le pays n'a pas pu être réunifié à cause de leurs désaccords.
D'accord.
Alors en 1948, les deux régimes opposés sont proclamés, avec au sud la République de Corée. Alors c'est un petit peu un paradoxe. Hein. Le sud, c'est la République de Corée, donc dirigée par le premier président coréen, qui
ouais.
s'appelait Syngman Rhee.
Mmh.
Et un anticommuniste forcené, soutenu par les États-Unis.
Oui.
Et au nord, la République populaire démocratique de Corée, mmh. c'est comme ça que ça s'appelle, la Corée
ouais.
du Nord, dirigée par le premier Kim de la dynastie, Kim Il-sung, soutenu par l'Union soviétique. Alors, je rappelle quand même que Kim Il-sung était un héros de l'indépendance de la Corée. Il s'était battu contre les Japonais.
Ok.
Voilà, alors chacun va bien sûr revendiquer la légitimité sur l'ensemble de la péninsule, oui, le sud sur le nord, le nord sur le sud. Et ce qui va entraîner des tensions politiques avec des incidents frontaliers répétés, ce qui va conduire à la guerre en 1950 avec Kim Il-sung, qui avait obtenu le soutien de Staline et de Mao pour une offensive. Éclair.
Ah oui, d'accord.
Voilà, et c'est donc le 25 juin 1950 que les troupes nord-coréennes vont franchir le 38e parallèle pour envahir le sud. Et c'était le début d'une guerre qui allait tout ravager.
Ah oui. Bon, la guerre a duré de 1950 à 1953. Mais comment s'est déroulé en fait ce conflit sur ces années-là ?
Alors, de juin à septembre 1950, les forces nord-coréennes vont progresser rapidement et repousser les troupes sud-coréennes et américaines jusqu'à l'extrême sud du pays. Ils avaient réussi à tout envahir presque.
Ah oui.
Et la situation semblait vraiment désespérée pour le sud, mais la contre-offensive de l'ONU, avec le débarquement d'Incheon. Incheon, c'est au nord. C'est pas très loin de Séoul, c'est là qu'il y a l'aéroport. Pas loin de la frontière de la Corée du Nord, avec la Corée du Nord. Et c'est le général américain Douglas MacArthur qui avait organisé ça. Et ça va changer la donne, ce débarquement. MacArthur va faire prendre à revers les troupes nord-coréennes et les repousser au-delà du 38e parallèle. Et après ce succès, Douglas MacArthur, il va décider alors de poursuivre la reconquête jusqu'à la frontière chinoise.
Oula.
Très ambitieux, Douglas MacArthur.
D'accord.
Ce qui va inquiéter Pékin.
On l'imagine bien.
On s'en doute.
J'imagine, oui. Alors, tu peux nous rappeler qui est Douglas MacArthur, s'il te plaît, Corinne ? Quel a été son rôle, en fait, dans cette guerre ?
Oui, on en avait parlé pour son rôle déterminant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait conduit les forces alliées à la victoire contre le Japon et il avait supervisé la reconstruction et fait adopter la nouvelle constitution démocratique japonaise. Alors en 1950, lorsqu'éclate la guerre de Corée, il était le chef militaire le plus reconnu et le plus influent en Asie. Et pour cette raison, il a été choisi par les États-Unis et l'ONU pour diriger les opérations militaires en Corée. Et après le succès du débarquement à Incheon, il avait donc décidé d'envahir la Corée du Nord jusqu'à la frontière chinoise. Mais cette décision va provoquer la réaction de la Chine, qui va envoyer plus de 700 000 soldats, on imagine. C'est un petit pays quand même, la Corée Sud, en novembre 1950. Donc on se doute que les troupes américaines et l'ONU vont subir de lourdes pertes.
Je suppose.
Et devront battre en retraite tant et si bien que le président Truman va révoquer MacArthur, car il voulait éviter une troisième guerre mondiale.
Oui, je comprends.
Et chercher la négociation avec le Nord. Alors, on peut dire de lui, de Douglas MacArthur, qu'il a sauvé la Corée du Sud sur le plan militaire, mais sur le plan politique, sa stratégie d'expansion vers la Chine a aggravé le conflit et prolongé la guerre. Ça n'a pas du tout aidé.
D'accord.
Donc, je vous propose d'écouter Raindrops, c'est Gumi, c'est coréen. Et c'est de la bande originale d'Alchemy of Soul, une très très belle série.
Ah d'accord, alors écoutons.
You 없이 꼭 웃어줘. 지던 빗방울도 이제 그쳤네. 언젠가 들리던 너의 숨결.
Alors voilà une petite pause bien calme, toute douce.
Oui.
Il faut ça, un peu de douceur, ça fait pas de mal. Donc vous êtes toujours avec Asialogie. Nous repartons sur le conflit que tu nous expliques depuis tout à l'heure. On arrive donc à une période de négociation et de stabilisation du conflit. Donc.
Oui, mais la guerre va continuer, Didier, de façon larvée jusqu'en 1953.
D'accord.
Alors, les négociations d'armistice s'étaient éternisées pendant 2 ans, jusqu'à la signature de l'accord de Panmunjom, le 27 juillet 1953. Donc là, la guerre s'arrête, mais aucun traité de paix n'a été signé.
Mmh.
Et aucun n'a été signé depuis.
Depuis, oui, bien
voilà.
sûr.
Et la péninsule coréenne reste toujours techniquement et théoriquement en guerre.
Ok.
Voilà. Alors, les conséquences humaines, sociales et économiques ont été effroyables parce que cette guerre a coûté la vie à près de 4 millions de personnes,
ah oui.
dont plus de la moitié de civils. Alors, on estime à environ 1 million les morts parmi les soldats nord-coréens et chinois.
D'accord.
Et à 400 000 les pertes du côté sud-coréen.
D'accord.
Et des forces de l'ONU. Alors, il y a des familles entières qui ont été séparées, on s'en doute. Hein, c'est comme un peu ce qui s'est passé en Allemagne.
Ouais.
Mais d'une façon encore plus brutale, je pense. Près de 10 millions de personnes ont perdu définitivement le contact avec leurs proches, restés de l'autre côté du 38e parallèle.
D'accord.
Voilà, c'est terrible.
Un drame. On imagine que, aussi que la Corée a été détruite et que les conditions de vie ont dû être désastreuses pour les Coréens, alors pendant un moment, j'imagine.
Mais oui, bien sûr, Didier. Hein, la Corée est sortie totalement, du nord au sud, totalement dévastée à cause des bombardements, notamment Séoul et Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. C'était surtout des bombardements américains, d'ailleurs. Mmh. Alors, en 1953, on a estimé que 80% des infrastructures urbaines étaient en ruine, les hôpitaux, les écoles, les routes, comme au Japon. Hein, c'était un peu la même situation.
Okay.
Il y a eu des millions de déplacés qui ont survécu dans la misère, le froid et la faim, avec la menace quotidienne d'exécutions sommaires, bah de soupçons. Hein. Est-il communiste? Est-il du Nord? Pas du Nord, etc.
Comme d'habitude, malheureusement.
Voilà. Donc, exécutions sommaires, viols, enrôlement forcé des jeunes dans l'armée, et avec des enfants qui vont grandir dans des ruines et marqués par la propagande et la haine du camp adverse, que ce soit du Nord, au Nord.
De chaque côté.
De chaque côté, bien évidemment. Alors, ce conflit est indélébile hein, dans la mémoire collective du peuple coréen dans son ensemble.
Ouais.
C'est devenu un tabou politique au Nord. Et un tabou politique. Hein. Au Nord, il va servir à glorifier Kim Il-sung.
Ah, j'imagine.
Hein, et au Sud, il va justifier les dictatures et la méfiance envers le communisme.
Mmh.
Et ça, jusqu'à l'avènement de la démocratie en 1987. Voilà. Alors, aujourd'hui encore, les Corées, la péninsule coréenne demeure le symbole vivant de la guerre froide.
Et oui.
C'est le symbole qui vit encore.
Bien sûr, bien sûr.
Un territoire qui est partagé entre deux systèmes politiques opposés, mais unis par une même mémoire douloureuse, avec un espoir de réunification, du moins on l'espère.
D'accord. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que la France s'était engagée dans ce conflit. Alors, comment et pourquoi ?
Alors oui, Didier, la France était l'un des membres fondateurs de l'ONU, il ne faut pas l'oublier, et il faisait partie du conseil, du premier conseil
de sécurité.
Okay. Et lorsque la guerre de Corée a éclaté en juin 50,
d'accord.
l'ONU avait voté une résolution condamnant l'agression nord-coréenne, bien sûr, et avait appelé ses États membres à apporter une aide militaire à la Corée du Sud.
Mmh.
Alors la France, alors c'était Vincent Auriol, hein, le président de l'époque, va choisir de répondre à cet appel malgré ses difficultés économiques de l'époque et son engagement militaire déjà lourd en Indochine.
Et oui.
Alors, plusieurs raisons à cet engagement en Corée. La France voulait soutenir l'action collective de l'ONU et défendre le principe de la sécurité mondiale. Et dans le contexte de guerre froide, elle souhaitait affirmer sa fidélité à ses alliés du bloc occidental.
On comprend, oui.
Et elle voulait aussi se montrer comme une puissance mondiale.
Mmh.
Alors, elle enverra donc un bataillon de volontaires sous drapeau français intégré à la coalition de l'ONU dirigée par les États-Unis.
D'accord. Alors, comment il a été créé ce bataillon ?
Alors,
un bataillon, il se composait de quoi ? Et puis, Bah, en fait, ça a été quoi son rôle? Un bataillon.
Alors, oui, un bataillon, ça semble pas beaucoup, oui. Mais il a fait beaucoup, Didier.
Eh bien, justement.
Voilà. Il a été créé donc le 25 août 1950.
D'accord.
Et composé uniquement de volontaires, c'est important.
Ah oui.
Recrutés parmi les soldats de l'armée régulière, avec des anciens résistants et des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 1050 hommes au départ, 27 ans de moyenne d'âge, quand même pas très vieux, venus de tous les corps d'armes. Alors ce bataillon était rattaché à la brigade d'infanterie américaine et va être formé et entraîné en urgence au camp d'Auvour, à côté du Mans, dans la Sarthe.
Oui, au très local.
Okay. Et oui, mais la Corée et la Sarthe ont beaucoup de points communs, en commun. Hein, okay. Entre Saint-Simon-Berneux, Château-du-Loir.
Oui, c'est ça. Hein. Alors, le camp d'Auvour.
Le camp d'Auvour, et ça, c'était entre fin septembre et octobre 1950. Et donc, le bataillon partira de Marseille en octobre pour arriver en Corée en novembre 1950, au moment où les troupes de l'ONU faisaient face à la contre-offensive chinoise avec leurs 700 000 soldats.
Bien sûr, comme tu l'as dit.
Voilà. Ils vont se battre dès leur arrivée dans des conditions extrêmes, hein, novembre, hein, en novembre, en Corée, au nord de la Corée. Il fait froid, c'est la montagne. Et ils se trouvaient face à une supériorité numérique complètement écrasante et vont se distinguer par leur engagement et leur courage. Alors entre 1955 et 1953, il y aura 3400 soldats français environ qui vont se succéder en Corée quand même. Et il y aura de lourdes pertes, hein, 262 morts, 1008 blessés, 7 disparus.
D'accord.
Alors en octobre 1953, après la signature de l'armistice, là, ce sera le retour, bien sûr.
Ouais.
Et leur action est plutôt passée inaperçue à cause de la guerre d'Indochine.
Ouais.
Mais il faut savoir que depuis 1953, la Corée du Sud honore régulièrement la mémoire de ces combattants français qui ont contribué à installer une amitié durable entre la France et la Corée du Sud.
D'accord.
Et on peut voir des monuments, plusieurs, hein, en Corée, à leur mémoire, hein, à ces soldats français, notamment au War Memorial of Korea, à Suwon et à Busan. C'est des monuments qui sont toujours et qui sont en permanence fleuris.
Ah, très bien. Ok. Bon, alors, si on veut aller un peu plus loin, Corinne, qu'on veut en savoir plus, est-ce qu'il y a des livres, des films, des BD, parce que ça me parle, qui racontent cette histoire, en fait?
Ben, y a peu de choses, Didier. Alors, il y a bien une BD qui s'intitule « Sur le front de Corée », qui est parue aux éditions Dupuis, en octobre 2024, qui raconte l'histoire d'un correspondant de guerre.
D'accord, c'est pas très vieux, on doit pouvoir la trouver.
Voilà.
Encore.
Et surtout, alors, il existe un webtoon, un franco-coréen de 2025, hein, qui raconte d'une façon romancée l'histoire du bataillon français en Corée. Et ce webtoon s'appelle Crève-cœur, du nom de la montagne qui a été le siège d'un combat important. Alors, malheureusement, c'est une publication exclusive sur Kakao Page. On peut toujours télécharger l'appli, hein. C'est une plateforme coréenne et dans le meilleur des cas, il y aura une traduction anglaise. J'ai pas été voir encore.
D'accord.
Et il est sorti en fait pour le 75e anniversaire du déclenchement de la guerre et c'est un projet franco-coréen.
Ah oui.
Un projet de mémoire pour transmettre le rôle du bataillon méconnu, hein, quand même, du bataillon français au jeune public coréen. C'est un travail de mémoire, moi je trouve ça quand même bien.
Oui.
Et actuellement, aucune annonce publique d'une édition officielle en français, ou en anglais, je ne suis pas sûre.
Okay.
Mais peut-être que l'année prochaine, on fêtera le 140e anniversaire des relations diplomatiques avec la Corée, peut-être qu'à cette occasion... Il sortira en français, en tout cas, je l'espère. Et puis, d'une façon plus générale, je dirais, je vous recommande le film Coast Guard de Kim Ki-duk, qui parle de l'absurdité de la guerre.
D'accord.
De cette guerre-là en particulier.
Écoute, ça nous fait quelques pistes si on veut en savoir un petit peu plus.
Voilà. Bon, Didier, on va écouter, on se fait une pause musicale.
Oui.
Rien à voir avec la guerre de Corée, mais bien à voir avec la Corée.
Là, on va être dans le bain. Tout de suite. Hein,
c'est une chanson qui s'appelle Bi Bim Bap.
Ça pouvait pas tomber mieux.
Ça pouvait pas tomber mieux.
Skitty bi bi bim bap. Grab your rice, fluffy and hot. Steam rising from the pot. Carrots, julienne, spinach bright. Veggies prep, colors right. Garlic sauteed with sesame oil. Sizzle loud, aroma loyal. Beef strips seasoned, soy and sweet. Cooking up, it's a tasty treat. Bi bim bap. Skitty bi bi bim bop, bi bim bop. Skitty bi bi bim bop. Cracking eggs, sunny side, golden yolk, open wide. Bean sprouts, blanch, crisp and nice. Go gochujang gives a spicy spice. Add some zucchini, lightly grilled. Mushroom sauteed, flavor filled. Arrange it pretty, colors pop. Taste explosion, can't ever stop. Bibimbap, skitty baby. Sesame seeds that toast, crunch and flavor, love the most. Drizzle sauce, red and bold, mixing now flavors unfold.
Merci Didier pour cette petite chanson.
De rien, là, je crois que c'est clair. Hein.
Alors, quelles sont les origines et les origines du kimbap et du bibimbap, Didier?
Alors, donc,
raconte-nous ça.
On va faire une petite synthèse, si vous voulez bien, par rapport d'abord le kimbap, qui est un rouleau de riz entouré d'algues, à consommer un peu comme un sandwich, en fait. D'aspect, il ressemble un petit peu au sushi japonais, mais il n'en a pas le goût ni tout à fait le contenu. Hein. Alors, le bibimbap, lui, est servi dans un bol, est un mélange de riz, de légumes, de viande et œufs, symbolisant l'équilibre, la diversité et la tradition coréenne. Tous les deux remontent au 15e siècle.
Ah oui, quand même.
Eh oui, pendant la dynastie Joseon. Mais ils ont évolué avec le temps, on peut imaginer, hein, les choses ont un petit peu changé. L'un pour sa praticité, pour le consommer, et l'autre pour la richesse et le symbole des ingrédients.
Alors décris-nous ce que c'est qu'un kimbap, Didier.
Alors, donc, le kimbap, c'est un rouleau de riz coréen, enveloppé de feuilles de nori, d'une algue séchée, qu'on trouve d'ailleurs partout maintenant.
Oui, c'est vrai, partout.
Un rouleau garni de divers ingrédients, alors légumes, viande, omelette ou poisson. Il se coupe en tranches et se consomme souvent froid, à la main, lors d'un pique-nique ou de repas rapides. On peut aussi mordre dedans directement. Le mot, kimbap vient de kim, l'algue séchée, et bap, riz. À l'époque Joseon, pour faciliter le transport et la conservation, le riz et les légumes étaient parfois roulés dans des feuilles. Puis plus tard, avec l'influence japonaise, le kimbap moderne s'est inspiré du maki sushi japonais, mais avec des différences. Hein. Pas de vinaigre de riz dans le riz, mais de l'huile de sésame. Pas de poisson cru, mais des ingrédients locaux comme les radis marinés, les carottes, des épinards, du kimchi bien sûr, hein, forcément, et parfois de la viande.
Oui, c'est plus végétal en fait.
Oui, hein. C'est ça. Et c'est un repas pratique et nomade. Alors, qui dit nomade, parfait pour les pique-niques, en voyage, pour les repas scolaires, pour les excursions.
Alors, parle-nous du bibimbap.
Oui, alors,
maintenant, Didier.
Le bibimbap est un plat qui peut se manger chaud ou froid. Il est fait à base de riz, de légumes sautés ou blanchis, avec de la viande, souvent du bœuf ou sans viande, avec un œuf cru ou frit. Le tout est mélangé avec la pâte de piment rouge coréen, donc le gochujang, avant de le manger. Alors, bibim égale mélange, et bap, on l'a dit, riz, et se traduit donc par riz mélangé.
C'est évident.
Voilà. Alors, les premières mentions du bibimbap remontent aussi à la dynastie Joseon. À l'époque, c'était un plat de restes de riz et de légumes destiné à éviter le gaspillage alimentaire. Il était donc initialement un plat populaire et économique, consommé dans les foyers ruraux. Et au fil du temps, il est devenu un plat emblématique de la gastronomie coréenne, servi dans les restaurants et reconnu internationalement.
Alors, il est aussi le symbole de la diversité, de l'équilibre dans la cuisine, je crois. Chaque légume représente une couleur et une saveur. Et tu peux nous expliquer ça, Didier?
Ah, je peux, oui, bien sûr. Alors, oui, c'est la tradition des cinq couleurs et cinq saveurs. Le bibimbap est à la fois un équilibre visuel, nutritionnel, et gustatif et presque thérapeutique, en fait. Les cinq couleurs appelées, alors, obangjasek, je suis bien là, Corinne?
Je crois que c'est obangsek.
Obangsek, pardon. Ils sont utilisés pour créer un plat harmonieux et symbolique. Le rouge représente le feu et le cœur et se retrouve dans le piment du gochujang. Les carottes et leurs radis rouges, le jaune, c'est le symbole de la terre et de la rate, et apporté par l'œuf, le maïs, la citrouille ou la courge. Le vert correspond au bois et au foie. se retrouve dans les épinards, le brocoli, le concombre ou les jeunes pousses. Le blanc représente le métal et les poumons, se retrouve dans le chou blanc, le radis blanc, le tofu ou les champignons blancs. Enfin, le noir ou le bleu foncé, symbole de l'eau et des reins, se retrouve dans le sésame noir, les algues nourries, les champignons shiitake et les haricots noirs.
C'est très symbolique comme plat.
Oui, là on y est.
Alors, 5 couleurs, 5 saveurs, Didier.
Oui. Donc,
5 saveurs.
Oui, le bibimbap respecte toujours donc les 5 saveurs, appelées oum. Saveur qui équilibre le goût du plat, la saveur salée apportée par la sauce soja ou le sel stimule l'appétit, la saveur sucrée apportée par le sucre, le miel ou certains légumes apporte douceur et énergie, la saveur acide provenant du kimchi ou du vinaigre aide à la digestion et la saveur amère présente dans certains légumes comme le pissenlit ou le radis amer purifie et stimule. Enfin, la saveur épicée ou piquante apportée par le piment, l'ail ou le gingembre réchauffe et active la circulation. Alors, en combinant ces 5 couleurs et ces 5 saveurs, le bibimbap devient un plat complet, équilibré et esthétique qui reflète la philosophie coréenne de la nourriture. Chaque repas doit nourrir le corps, l'esprit et les sens, tout en respectant la nature et les principes de la médecine traditionnelle.
Ça va être trop court pour donner les recettes.
Oui,
Didier,
mais
hein.
C'est tellement facile de les trouver sur Internet. Je pense que, voilà, vous l'avez compris, les bases, c'est du riz, des légumes, trouver de la feuille de nori. Et puis,
ça, c'est facile.
Et on roule tout ça. Je fais très caricatural, mais vous allez trouver toutes ces recettes sur Internet. Je vous invite à les faire. Et si vous n'y arrivez pas, à les déguster. Vous trouverez bien quelqu'un pour vous faire ça et vous faire découvrir. Moi, j'ai adoré. C'est très bon. J'apprécie.
Oui, et il faut acheter du riz japonica, du riz à sushi.
Ah d'accord, ok.
Important, il faut que ça colle.
Ah, j'imagine, ça marche.
Bon, Didier,
oui.
Les amis, Asialogie, c'est fini.
Voilà.
On se retrouve jeudi prochain,
oui.
À midi, samedi à 9h30, mercredi à 13h,
oui.
Et bien sûr en podcast et toujours sur Alpa.
Voilà, il n'y a plus qu'à déguster.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine, à bientôt.
Prenez soin de vous, salut.